14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Chez les Belchaux, on aurait réglé cette affaire, au pire, par un divorce. Mais pas par un crime, j'entends. Si toutes les infidélités conjugales aboutissaient à la mort de l'un ou l'autre des conjoints, le monde serait dépeuplé.
Bonjour. Comment une femme qui s'évapore en plein Paris peut-elle se retrouver en quelques heures au fond d'un ravin en Suisse? Pourquoi un mari célèbre qui se dit terrassé de chagrin accumule autant de mensonges? L'équation de la disparition et de la mort de Betty Belchaux en 1979 se joue comme dans l'un des meilleurs romans d'Agatha Christie, à deux personnages, elle-même et son époux. Plus de 40 ans après, cette énigme qui avait mobilisé les polices suisses, françaises et canadienne exerce la même fascination. Une affaire où chaque certitude est aussitôt chassée par une interrogation, au point qu'aujourd'hui encore, malgré une enquête fleuve et même un procès, le dossier reste sous l'empire du doute. Comment est morte Betty Belchaux et qui aurait pu la tirer dans un piège? Son époux Cyril Belchaux était-il son ange gardien ou son ange exterminateur? Qui a intérêt à cacher la vérité? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'énigme Betty Belchaux. Au tout début de l'année 1979, cette mère de famille canadienne, brillante professeure dans son pays, en visite à Paris, ne va bientôt plus donner aucun signe de vie. Ce 6 janvier 1979, aux alentours de 9h du matin, le couple Belchaux, Betty et Cyril Belchaux, des universitaires canadiens, s'apprêtent à quitter leur hôtel, le Novotel de la Porte de Bagnolet à Paris. Ces deux universitaires ont un programme chargé. Betty a prévu de se rendre à la Bibliothèque Nationale, la BNF, rue de Richelieu, au cœur de la capitale, pour une recherche sur l'écrivaine Catherine Mansfield. Cyril, anthropologue de renommée mondiale, va lui faire le tour de quelques librairies. Le couple est arrivé la veille en voiture de Suisse, où il séjourne depuis quelques semaines. Pour circuler dans Paris, il préfère emprunter le métro. Cyril Belchaux laisse Betty à la station Bourse, tout près de la BNF. Mari et femme ont prévu de se retrouver aux alentours de 13h, près du grand magasin des Galeries Lafayette, pour prendre un verre. Mais à l'heure dite, Betty n'est pas là. Cyril Belchaux l'attend. Peut-être a-t-elle oublié. Il arrive, dit-il, que sa femme connaisse des trous de mémoire, des passages à vide. À l'époque, pas de téléphone portable. Le scientifique attend jusqu'à 15h, puis décide de se rendre à la Bibliothèque Nationale. Personne ici n'a vu la professeure. Aucune fiche de visiteur n'a été délivrée en son nom. Belchaux retourne à l'hôtel. Elle ne s'est pas présentée à la réception non plus. La chambre est vide. En fin d'après-midi, l'homme appelle les enfants du couple, Diana et Adriane, restés à Vancouver, au Canada. Il leur fait part de sa perplexité, puis téléphone au consulat du Canada et à la police. Les autorités ne montrent pas d'inquiétude excessive après le signalement de cette disparition. Betty Belchaux, 59 ans, est sans doute quelque part désorientée après avoir connu une absence. À la police, son mari explique qu'elle souffre d'amnésie passagère, mais peut aussi se montrer dépressive. La professeure aurait-elle eu des idées noires au point d'attenter à sa propre vie ? Le mari fait une description exhaustive des habits qu'elle portait lors de sa disparition, la manière dont elle était coiffée, la forme de son sac à main et celle de la monture de ses lunettes. Il peut même donner la marque de son soutien-gorge. Cyril Belchaux est un scientifique qui aime la précision et cultive l'exactitude. Aucun détail ne lui échappe. Le 15 janvier, la disparition est officiellement signalée. Le mari a depuis repris la route de la Suisse. Le village de Montana, dans le Valais, tout près de la station de ski de Cran Montana. Peut-être Betty le rejoindra dans l'appartement loué pour un congé sabbatique, mais celle-ci ne réapparaît pas. La fille du couple, Diana, une actrice de théâtre, rejoint son père en Suisse pour le réconforter. Elle dira avoir trouvé un homme en plein désarroi, pleurant souvent et pensant que Betty aurait pu se suicider. Cyril Belchaux va même aller jusqu'à Londres pour consulter un officier de l'armée du salut, un médium spécialiste des disparitions sans résultat. À l'université British Columbia de Vancouver, où les Belchaux sont des enseignants vedettes, la nouvelle de la disparition de Betty met un émoi le campus. Betty est une professeure de littérature, sévère et classique, mais appréciée de ses étudiants. Cyril est lui un universitaire célèbre, c'est l'un des plus grands anthropologues du moment, auteur de nombreux ouvrages. Il s'était mis au vert en Suisse pour rédiger un nouveau livre. Au fil des semaines, il perd espoir. Il devenait clair que Betty n'était plus vivante, dira-t-il. 28 mars 1979, presque trois mois après la disparition, deux cantonniers découvrent un corps de femme en décomposition en contrebas de la route entre Aigle et le Cépé, au lieu dit Pont de l'Arrevoin, à une heure de Montana. La victime est totalement nue, ne porte aucun bijou. Elle a été sommairement enveloppée dans trois grands sacs poubelles en plastique. Les bêtes sauvages l'ont en partie dévorée. Elle est non identifiable, impossible pour les légistes de déterminer les causes de sa mort. Seul signe distinctif, sa dentition soignée, compte quatre couronnes en or. L'avis de disparition n'est toutefois pas resté en France. Interpol le diffuse dans le monde entier. Le rapprochement est aussitôt fait entre le cadavre du pont de l'Arrevoin et la professeure canadienne. Cyril Belchaux va tenter alors une étrange diversion. Après la découverte de ce corps sommairement abandonné en pleine nature, les policiers suisses examinent toutes les disparitions inquiétantes. Un avis émis par Interpol signalant celle en France de Betty Belchaux, qui réside temporairement dans le Valais, ne leur échappe pas. L'inspecteur Nicolas Margot prend alors contact avec le mari resté dans l'appartement de Montana. Cyril Belchaux ne peut pas croire que ce cadavre soit celui de son épouse. Lui, qui est d'ordinaire si précis et si pointilleux, et qui plus est anthropologue, rompu à tout ce qui touche aux composantes corporelles, lui est incapable de dire si Betty avait des dents couronnées. Il ne se souvient pas. Quand les enquêteurs lui demandent les coordonnées du dentiste canadien qui soigne habituellement sa femme, il répond qu'il va les aider. Pour aller plus vite, il va prendre contact lui-même avec le praticien. Il transmettra à la police le document demandé, un odontogramme. Cyril Belchaux tient parole. Quelques semaines plus tard, il fournit aux enquêteurs la pièce en question, arrivée par courrier du Canada, schéma transmis par la police pour expertise au dentiste Claude Imobersteg. D'entrée, celui-ci constate que l'odontogramme ne correspond pas à la dentition de la morte, mais à y regarder de plus près, il est surpris. Le schéma est une photocopie trafiquée. Des détails ont été effacés. Le docteur prend alors discrètement contact avec son homologue canadien, lequel lui renvoie un original. Septembre 1979, le cadavre du pont de l'Arrevoin est formellement identifié. Il s'agit bien de Betty Belchaux. Les enquêteurs suisses sont surpris et furieux de ce tour de passe-passe. Pourquoi l'éminent Cyril Belchaux leur a-t-il transmis un faux odontogramme? Pas moins de 12 modifications faites avec du Tipex. Belchaux a-t-il des choses à cacher? Pourquoi a-t-il fait perdre un temps précieux à la police? Ils aimeraient bien le questionner, mais le professeur s'est envolé. Il est reparti au mois de juillet au Canada sans prévenir. Il a donné congé au loueur de l'appartement, indiquant que son congé sabbatique s'achevait. Il a pris toutes ses affaires et a même fait rapatrier par bateau sa voiture. Il n'en faut pas davantage pour faire de Cyril Belchaux le suspect numéro 1. La police de Vancouver est alertée, le professeur est entendu en qualité de témoin. Questionné sur le faux schéma remis aux Suisses, Belchaux indique qu'il ne pouvait pas se faire à l'idée que son épouse pouvait être décédée. Il était dans le déni. Et a donc fabriqué ce faux. C'était un blocage psychologique. Je ne voulais pas la voir morte, c'était complètement irrationnel, admet-il. Explication bancale et farfelue pour la police du Valais. 24 septembre 1979, deux enquêteurs suisses débarquent à Vancouver. Ils ont l'autorisation d'interroger le suspect. L'audition est des plus tendues. On annonce à Belchaux que le corps de sa femme est identifié et qu'il a mené la police en bateau. Le prof répète sa version. Il a fabriqué ce faux schéma dentaire car il ne voulait pas entendre que Betty était morte. Une fuite psychologique. Il affirme qu'il n'a rien à voir avec la mort de son épouse avec qui il est marié depuis 37 ans et qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Il finit par se taire. Les policiers n'ont aucun moyen d'aller plus loin. Après être rentrés en Suisse, ils prennent connaissance d'un rapport de la gendarmerie royale canadienne selon lequel Belchaud a été surpris un soir en voiture sur le campus dans une position pour le moins acrobatique avec une femme. C'était juste à son retour à Vancouver au mois de juillet. Il s'avère que cette femme mariée est sa maîtresse et que celle-ci était avec lui dans l'appartement en Suisse juste avant l'arrivée de l'épouse légitime. Cette liaison aurait-elle provoqué une dispute au sein du couple ? Cyril Belchaud sait que la police vaudoise est dans ses pas et le considère comme le suspect numéro 1. Au Canada, il est toutefois hors d'atteinte. C'est sans compter le faux pas qu'il va commettre. 8 mois après la découverte du cadavre de Betty Belchaud, les légistes ne peuvent pas déterminer avec précision les causes de sa mort ni l'heure exacte à laquelle elle a rendu son dernier souffle. La dépouille est beaucoup trop décomposée. Seule certitude, quelqu'un a déshabillé entièrement la malheureuse et l'a transportée enveloppée de sacs poubelles avant de l'abandonner au bas d'un talus. Les regards se portent sur le professeur Cyril Belchaud, le mari, mais il est hors d'atteinte au Canada. Qui plus est, son véhicule qui a peut-être servi à transporter le corps, a lui aussi été rapatrié à Vancouver. La garniture du coffre de la Citroën SM, croit-on savoir, aurait été remplacée. Belchaud sait que la Suisse le recherche, mais pas d'autres pays. Le 11 novembre 1979, il atterrit donc à l'aéroport de Roissy, invité à un colloque de l'UNESCO. Le juge suisse a été informé de cette visite et demande l'arrestation immédiate de l'intéressé recherché pour homicide volontaire. Le scientifique est emprisonné à Fleury-Mérogis. Son avocat, Robert Badinter, va se battre pendant plus de 2 mois contre cette extradition. Le 1er février 1980, Cyril Belchaud est extradé et écroué à la prison du Bois-Mermé, près de Lausanne. Il répète qu'il n'a fait aucun mal à son épouse. Pour le faire craquer, on lui présente des photos du corps dégradé de Betty et on lui pose cette question : quel genre d'homme peut faire ça ? Il ne bronche pas. Les policiers le tiennent pour un menteur. Ils estiment que Betty ne l'a jamais accompagné à Paris. Il s'en serait débarrassé avant ce voyage. Les enquêteurs en veulent pour preuve le fait que personne ne se souvient de l'épouse à l'hôtel PLM de Beaune où le scientifique a fait escale. Personne non plus ne l'a aperçu à l'hôtel à Paris. Un garçon d'étage a bien monté 2 plateaux de petit déjeuner dans la chambre. Belchaud lui a dit alors que sa femme était sous la douche. Aucune trace de Betty Belchaud en France, un séjour pour lequel le professeur ne dispose d'aucune facture, notamment les repas qu'il aurait pris avec Betty dans un restaurant d'autoroute. Lui qui paie toujours avec une carte de crédit et garde tous ses reçus, a fait cette fois-là une entorse à ses habitudes. Tout accuse donc Cyril Belchaud qui pendant 10 mois va continuer à nier toute implication dans la fin brutale de son épouse. La justice suisse le considère comme coupable. Il va donc être jugé et risque jusqu'à 20 ans de prison. Ce jeudi 4 décembre 1980, Cyril Belchaud, 59 ans, se présente devant le tribunal criminel d'Aigle, petite commune du canton de Vaud, là où avait été découvert le corps de Betty Belchaud. L'homme, lunettes à monture épaisse, moustache bien taillée et mèche sur le front, n'affiche pas la moindre expression, visage lisse. Les 17 témoins qui défilent sont essentiellement des policiers. Ils énumèrent les charges, les mystères, les incohérences dans les déclarations et le comportement de l'accusé. Le professeur va répondre pendant 9 heures à ces déclarations qui le décrivent comme un homme qui a tout fait pour dérouter les enquêteurs. Il s'exprime dans un excellent français et n'a que rarement recours à l'interprète. À propos du schéma dentaire falsifié qu'il a fourni à la justice suisse, il déclare avoir agi non pas dans un but malfaisant, mais sous l'emprise d'une lourde pression psychologique. « Je ne suis pas fier d'avoir fait ça, dit-il. Je ne cherche aucune excuse, mais vous devez comprendre dans quel état je me trouvais à ce moment-là. » L'accusation évoque aussi la maîtresse de Cyril Belchaud, infidélité qui aurait pu être une source de conflit avec son épouse. Peu après la disparition présumée de Betty à Paris, il a envoyé une lettre à cette femme avec ces mots « Betty has taken off, Betty a filé ». Le professeur dément tout conflit. Ses avocats dénoncent une enquête à charge depuis l'affaire de l'odontogramme. Ils évoquent des indices, mais aucun élément démontrant que Betty Belchaud a été tuée et encore moins par son mari. Diana, la fille du professeur, raconte avoir trouvé son père en larmes après la disparition. Elle dit avoir vu les valises de sa mère ramenées de France par son père. Elle est formelle. Il y avait du linge sale à l'intérieur, preuve que Betty Belchaud aurait voyagé. Témoignage invérifiable, mais qui va semer le doute. Le 8 décembre, malgré des manœuvres qualifiées de déloyales et choquantes par le tribunal, Cyril Belchaud est acquitté au bénéfice d'un très léger doute. Verdict accueilli dans la stupéfaction et un silence de cathédrale. Cyril Belchaud quitte libre le tribunal criminel d'Aigle. Malgré cet acquittement, le professeur avait longtemps eu le soutien de la communauté scientifique. Il va continuer à concentrer soupçons et supputations. Après l'affaire, Cyril Belchaud retrouve son poste d'enseignant à la chaire d'anthropologie de l'Université British Columbia de Vancouver. Il a beau être innocent, les étudiants désertent peu à peu ses cours, comme si le professeur sentait à jamais le soufre. Belchaud retrouve sa maîtresse, une femme plus jeune et beaucoup plus exubérante que Betty, et vivra quelques années avec elle. Il a dû vendre sa maison pour payer les frais d'avocat et s'est lancé dans l'écriture de critiques gastronomiques. Parfois, lors de ses voyages d'études aux îles Fidji ou en Nouvelle-Guinée, il lui arrive de faire allusion à Betty. « Elle m'a toujours soutenu », dit-il. À l'âge de 91 ans, il accorde une longue interview à la radio-télévision suisse. « Je regrette de ne pas avoir fait soigner Betty. Elle est peut-être tombée dans un état d'amnésie ou de semi-amnésie, ce qui lui était déjà arrivé et s'est retrouvée en mauvaise compagnie avec des personnes qui ont ensuite caché son corps », raconte-t-il. Cyril Belchaud est décédé le 20 novembre 2018, quelques semaines avant son 97e anniversaire. L'universitaire n'aura jamais changé de version, reconnaissant de maladroits mensonges, mais aucun crime. « Je n'ai jamais cessé de penser à Betty. Ce qui s'est passé reste un mystère total, mais je crois qu'il était très probable qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre », précisait le professeur Belchaud. « La mort de Betty Belchaud n'a jamais été élucidée. »
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.